Chapitre 9. Au déjeuner, les deux amis convinrent d'aller ensemble passer le lendemain la soirée au chalet et de s'initier aux douceurs d'un whist de province. Mais pour brûler la journée, ils firent seller les chevaux, tous les deux pris à deux fins, et ils s'aventurèrent dans le pays qui, certes, leur était inconnu autant que la Chine, car ce qu'il y a de plus étranger en France pour les Français, c'est la France. Réfléchissant à sa position d'amant malheureux et méprisé, le référendaire fit alors sur lui-même un travail quasi semblable à celui que lui avait fait faire la question posée par Modeste au commencement de leur correspondance. Quoique le malheur passe pour développer les vertus, il ne les développe que chez les gens vertueux, car ces sortes de nettoyages de conscience n'ont lieu que chez les gens naturellement propres. La Bruyère se permit de dévorer à la spartiate ses douleurs, de rester digne et de ne laisser aller à aucune lâcheté, tandis que Canalis, fasciné par l'énormité de la dot, s'engageait lui-même à ne rien négliger pour captiver Modeste. L'égoïsme et le dévouement, le mot de ces deux caractères, arrivèrent, par une loi morale assez bizarre dans ses effets, à des moyens contraires à leur nature. L'homme personnel allait jouer l'abnégation et l'homme tout complaisance allait se réfugier sur le mont Aventin de l'orgueil. Ce phénomène s'en sert également en politique. On y met fréquemment son caractère à l'envers, et il arrive souvent que le public ne sait plus quel est l'endroit. Après dîner, les deux amis apprirent par Germain l'arrivée du grand écuyer qui fut présenté dans cette soirée au chalet par M. Latournelle. Mademoiselle d'Hérouville trouva moyen de blesser une première fois ce digne homme en le faisant prier de venir chez elle par un valet de pied au lieu d'envoyer son neveu simplement chez le notaire qui certes aurait parlé pendant le reste de ses jours de la visite du grand écuyer. Aussi le petit notaire fit-il observer à sa seigneurie, quand elle lui proposa de conduire en voiture à Ingouville, qu'il devait y mener Madame Latournelle. Devinant à l'air gourmé du notaire qu'il y avait quelque faute à réparer, le duc lui dit gracieusement « J'aurai l'honneur de les prendre, si vous le permettez, Madame Latournelle. » Malgré un haut le corps de la despotique Mademoiselle d'Hérouville, le duc sortit avec le petit notaire, ivre de joie en voyant à sa porte une calèche magnifique dont le marchepied fut abaissé par des gens à la livrée royale, et la notaresse ne sut plus où prendre ses gants, son ombrelle, son ridicule et son air digne, en apprenant que le grand écuyer la venait chercher. Une fois dans la voiture, tout en se confondant de politesse auprès du petit duc, elle s'écria par un mouvement de bonté « Eh bien, eh, Butchat ! Eh bien, prenons Butchat !» dit le duc en souriant. Quand les gens du port attroupés par l'éclat de cet équipage virent ces trois petits hommes avec cette grande femme sèche, ils se regardèrent tous en riant. Allez soudain au bout les uns des autres, ça ferait peut-être un mal pour une si grande perche, dit un marin bordelais. Avez-vous encore quelque chose à emporter, madame ? Demanda plaisamment le duc au moment où le valet attendit l'ordre. Non, monseigneur, répondit la notaresse, qui devint rouge et qui regarda son mari comme pour lui dire « Mais qu'ai-je fait de si mal ?» « Sa seigneurie, dit Butchat, me fait beaucoup d'honneur en me prenant pour une chose. Un pauvre clerc comme moi n'est qu'un machin. » Quoique ce fût dit en riant, le duc rougit et ne répondit rien. Les grands ont toujours tort de plaisanter avec leurs inférieurs. La plaisanterie est un jeu, le jeu suppose l'égalité. Aussi est-ce pour obvier aux inconvénients de cette égalité passagère que la partie finie, les joueurs ont le droit de ne se plus connaître. La visite du grand écuyer avait pour raison ostensible une affaire colossale, la mise en valeur d'un espace immense laissé par la mer entre l'embouchure de deux rivières et dont la propriété venait être adjugée par le Conseil d'État à la maison d'Hérouville. Il ne s'agissait de rien moins que d'appliquer des portes de flot et d'herbe à deux ponts, de dessécher un kilomètre de tangle sur une largeur de 300 ou 400 arpents, d'y creuser des canaux et d'y pratiquer des chemins. Quand le duc d'Hérouville eut expliqué les dispositions du terrain, Charles Mignon fit observer qu'il fallait attendre que la nature eût consolidé ce sol encore mouvant par ses productions spontanées. Le temps qui a provisionnellement enrichi votre maison, monsieur le duc, peut seul achever son œuvre, dit-il en terminant. Il serait prudent de laisser une cinquantaine d'années avant de se mettre à l'ouvrage. Que ce ne soit pas là votre dernier mot, monsieur le comte, dit le duc, mais venez à Hérouville et voyez les choses par vous-même. Charles Mignon répondit que tout capitaliste devait examiner cette affaire à tête reposée, et donna par cette observation au duc d'Hérouville un prétexte pour venir au chalet. La vue de Modeste fit une vive impression sur le duc. Il demanda la faveur de la recevoir en disant que sa sœur et sa tante avaient entendu parler d'elle et seraient heureuses de faire sa connaissance. À cette phrase, Charles Mignon proposa de présenter lui-même sa fille en allant inviter les deux demoiselles à dîner pour le jour de sa réintégration à la villa, ce que le duc accepta. L'aspect du cordon bleu, le titre et surtout les regards extatiques du gentilhomme agirent sur Modeste, mais elle se montra parfaite de discours, de tenue et de noblesse. Le duc se retira comme à regret, en emportant une invitation de venir au chalet tous les soirs, fondée sur l'impossibilité reconnue à un courtisan de Charles X de passer une soirée sans faire son whist. Ainsi, le lendemain soir, Modeste allait voir ses trois amants réunis. Assurément, quoi qu'en disent les jeunes filles, et quoi qu'il soit dans la logique du cœur de tout sacrifier à la préférence, il est excessivement flatteur de voir autour de soi plusieurs prétentions rivales, des hommes remarquables ou célèbres ou d'un grand nom, tâchant de briller ou de plaire. Du Modeste y perdre, elle avoua plus tard que les sentiments exprimés dans ses lettres avaient fléchi devant le plaisir de mettre aux prises trois esprits si différents, trois hommes dont chacun, pris séparément, aurait certainement fait honneur à la famille la plus exigeante. Néanmoins, cette volupté d'amour-propre fut dominée chez elle par la misanthropique malice qu'avait engendrée la blessure affreuse qui déjà lui semblait seulement un mécompte. Aussi, lorsque le père fit en souriant « Eh bien, Modeste, veux-tu devenir duchesse ?» « Oh, le malheur m'a rendu philosophe, » répondit-elle en faisant une révérence moqueuse. « Vous ne serez que baronne ?» lui demanda Bouchard. « Ou vicomtesse ?» répliqua le père. « Comment cela ?» dit vivement Modeste. « Mais si tu agréais monsieur de la Brière, il aurait bien assez de déduits et crédits pour obtenir de roi la succession de mes titres et de mes armes. » « Bon, dès qu'il s'agit de se déguiser, celui-là ne fera pas de façon, » répondit amèrement Modeste. Butcha ne comprit rien à cet épigramme, dont le sens ne pouvait être deviné que par Madame et Monsieur Mignon et par Dumais. « Dès qu'il s'agit de mariage, tous les hommes se déguisent, » répondit Madame Latournelle, « et les femmes leur en donnent l'exemple. » J'entends dire depuis que je suis au monde, monsieur ou mademoiselle une telle a fait un bon mariage. Il faut donc que l'autre l'ait fait mauvais. Le mariage, dit Butcha, ressemble à un procès. Il s'y trouve toujours une partie de mécontente. Et si l'une dupe l'autre, la moitié des mariés joue certainement la comédie au dépens de l'autre. Et vous concluez, sire Butcha, dit Modeste, À l'attention la plus sévère sur les manœuvres de l'ennemi, répondit Leclerc. Et que t'ai-je dit, ma mignonne? Dit Charles Mignon en faisant allusion à sa scène avec sa fille au bord de la mer. Les hommes, pour se marier, dit la Tournelle, jouent autant de rôles que les mères en font jouer à leurs filles pour s'en débarrasser. Vous permettez alors le stratagème, dit Modeste. De part et d'autre, s'écria Guggenheim, la partie est à leur égale. Cette conversation se faisait, comme on dit familièrement, à bâton rompu, à travers la partie et au milieu des appréciations que chacun se permettait de M. d'Irouville, qui fut trouvé très bien par le petit notaire, par le petit Dumay et par le petit Butscha. Je vois, dit Madame Mignon avec un sourire, que Madame Latournelle et mon pauvre mari sont ici les monstruosités. Heureusement pour lui, le colonel n'est pas d'une haute taille, répondit Butscha, pendant que son patron donnait les cartes, car un homme grand et spirituel est toujours une exception. Sans cette petite discussion sur la légalité des ruses matrimoniales, peut-être taxerait-on de longueur le récit de la soirée, impatiemment attendue par Butscha. Mais la fortune pour laquelle tant de lâchetés secrètes se commirent prêtera peut-être aux minuties de la vie privée l'immense intérêt que développera toujours le sentiment social si franchement défini par Ernest dans sa réponse à Modeste. Dans la matinée, arriva Desplein, qui ne resta que le temps d'envoyer chercher les chevaux de la poste du Havre et de les atteler environ 1 heure. Après avoir examiné Madame Mignon, il décida que la malade recouvrerait la vue. Et il fixa le moment opportun pour l'opération à 1 mois de là. Naturellement, cette importante consultation eut lieu devant les habitants du chalet, tous palpitants et attendant l'arrêt du prince de la science. L'illustre membre de l'Académie des sciences fit à l'aveugle une dizaine de questions brèves en étudiant les yeux au grand jour de la fenêtre. Étonné de la valeur que le temps avait pour cet homme si célèbre, Modeste aperçut la calèche de voyage pleine de livres que le savant se proposait de lire en retournant à Paris, car il était parti la veille au soir, employant ainsi la nuit et à dormir et à voyager. La rapidité, la lucidité des jugements que Desplein portait sur chaque réponse de Madame Mignon, son ton bref, ses manières, tout donna pour la première fois à Modeste des idées justes sur les hommes de génie. Elle entrevit d'énormes différences entre Canalis, l'homme secondaire, et Desplein, l'homme plus que supérieur. L'homme de génie a dans la conscience de son talent et dans la solidité de la gloire, comme une garenne où son orgueil légitime s'exerce, et prend l'air sans gêner personne. Puis, sa lutte constante avec les hommes et les choses ne lui laisse pas le temps de se livrer aux coquetteries que se permettent les héros de la mode qui se hâtent de récolter les moissons d'une saison fugitive et dont la vanité et l'amour-propre ont l'exigence et les taquineries d'une douane âpre à percevoir ses droits sur tout ce qui se passe à sa portée. Et Modeste fut d'autant plus enchanté de ce grand praticien qu'il parut frappé de l'exquise beauté de Modeste, lui entre les mains de qui tant de femmes passaient et qui depuis longtemps les examinait en quelque sorte à la loupe et au scalpel. Ce serait en vérité bien. La fierté de Modeste, son dédain, alarmèrent le poète. Il revint à elle en donnant le spectacle d'une jalousie d'autant plus visible qu'elle était jouée. Modeste, implacable comme les anges, savoura le plaisir que lui causait l'exercice de son pouvoir, et naturellement elle en abusa. Le duc d'Hérouville n'avait jamais connu pareille fête. Une femme lui souriait. À 11 heures du soir, heure indue au Châtelet, les trois prétendus sortirent. Le duc, en trouvant Modeste charmante, Canalis en la trouvant excessivement coquette, et La Bruyère navrée de sa dureté. Bien dommage, dit-il avec ce ton de galanterie qu'il savait prendre et qui contrastait avec sa prétendue brusquerie, qu'une mère fût privée de voir une si charmante fille. Modeste voulut servir elle-même le simple déjeuner que le grand chirurgien accepta. Elle accompagna, de même que son père et Dumay, le savant attendu par tant de malades jusqu'à la calèche qui stationnait à la petite porte. Et là, l'œil doré par l'espérance, elle dit encore à Desplein « Ainsi, ma chère maman me verra. » « Oui, oui, mon petit feu follet, je vous le promets, » répondit-il en souriant. « Et je suis incapable de vous tromper, car moi aussi, j'ai une fille. » Les chevaux emportèrent Desplein sur ce mot qui fut plein d'une grâce inattendue. Rien ne charme plus que l'imprévu, particulier aux gens de talent. Cette visite fut l'événement du jour. Elle laissa dans l'âme de Modeste une trace lumineuse. La jeune enthousiaste admira naïvement cet homme dont la vie appartenait à tous et chez qui l'habitude de s'occuper des douleurs physiques avait détruit les manifestations de l'égoïsme. Le soir, quand Gobenheim, les Latournelle et Boutcha, Canalis, Ernest et le duc d'Hérouville furent réunis, chacun complimenta la famille Mignon de la bonne nouvelle donnée par Desplein. Naturellement alors, la conversation où domina la modeste que les lettres ont révélée se porta sur cet homme, dont le génie était, malheureusement pour sa gloire, appréciable seulement par la tribu des savants et de la faculté. Gobenheim laissa échapper cette phrase qui, de nos jours, est la sainte ampoule du génie au sens des économistes et des banquiers. « Mais il gagne l'argent fou !»« Mais on le dit très intéressé !» répondit Canalis. Les louanges données à Desplein par Modeste incommodaient le poète. La vanité procède comme la femme. Toutes deux, elles croient perdre quelque chose à l'éloge et à l'amour accordé à autrui. Voltaire était jaloux de l'esprit d'un roué que Paris admira de jour, de même qu'une duchesse s'offense d'un regard jeté sur sa femme de chambre. L'avarice de ces deux sentiments est telle qu'il se trouve volé de la part faite à un pauvre. « Croyez-vous, monsieur ?» demanda Modeste en souriant. Qu'on doive juger le génie avec la mesure ordinaire. Il faudrait peut-être avant tout, répondit Canalis, définir l'homme de génie, et l'une de ses conditions est l'invention. Invention d'une forme, d'un système ou d'une force. Ainsi, Napoléon fut inventeur à part ses autres conditions de génie. Il a inventé sa méthode de faire la guerre. Walter Scott est un inventeur, Linné est un inventeur, Geoffroy, Saint-Hilaire et Cuvier sont des inventeurs. De tels hommes sont hommes de génie au premier chef. Ils renouvellent, augmentent ou modifient la science ou l'art. Mais Desplein est un homme dont l'immense talent consiste à bien appliquer des lois déjà trouvées et observées par un don naturel, les désinences de chaque tempérament et l'heure marquée par la nature pour faire une opération. Il n'a pas fondé, comme Hippocrate, la science elle-même. Il n'a pas trouvé de système comme Galien, Broussais ou Razzery. C'est un génie exécutant, comme Moscheles sur le piano, Paganini sur le violon, comme Farinelli sur larynx, gens qui développent d'immenses facultés, mais qui ne créent pas de musique. Entre Beethoven et le Catalani, vous me permettrez de décerner à l'un l'immortelle couronne de génie et du martyr, et à l'autre beaucoup de pièces de 100 sous. Avec l'une, nous sommes quittes, tandis que le monde reste toujours le débiteur de l'autre. Nous nous endettons chaque jour avec Molière, et nous avons trop payé, Baron. Oh, je crois, mon ami, que tu fais la part des idées trop belles, dit la Bruyère d'une voix douce et mélodieuse, qui produisit un soudain contraste avec le ton péremptoire du poète, dont l'organe flexible avait quitté le ton de la câlinerie pour le ton magistral de la tribune. Le génie doit être estimé, surtout en raison de son utilité. Parmentier, Jacquard et Papin, à qui l'on élèvera des statues quelque jour, sont aussi des gens de génie. Ils ont changé ou changeront la face des États en un sens. Sous ce rapport, Desplein se présentera toujours aux yeux des penseurs, accompagné d'une génération tout entière dont les larmes, dont les souffrances auront cessé sous sa main puissante. Il suffisait que cette opinion fût émise par Ernest pour que Modeste voulût la combattre. « Bien ce compte, dit-elle, monsieur, celui qui trouverait le moyen de faucher le blé sans gâter la paille par une machine qui ferait l'ouvrage de 10 moissonneurs serait un homme de génie ?»« Oh oui, ma fille, dit madame Mignon, il serait béni du pauvre dont le pain coûterait alors moins cher. » Et celui que bénissent les pauvres est béni de Dieu. Mais c'est donner le pas à l'utile sur l'art, répondit Modeste en hochant la tête. Sans l'utile, dit Charles Mignon, où prendrait-on l'art? Sur quoi s'appuierait? De quoi vivrait? Où s'abriterait? Et qui paierait le poète? Oh, mon cher père, cette opinion est bien capitaine au long cours. Épicier bonnet de coton. Que Gobenheim et monsieur le référendaire, dit-elle en montrant la bruyère, qui sont intéressés à la solution de ce problème social, la soutiennent, je le conçois. Mais vous, dont la vie a été la poésie la plus inutile de ce siècle, puisque votre sang répandu sur l'Europe et vos énormes souffrances exigées par un colosse n'ont pas empêché la France de perdre 10 départements. Acquis par la République. Comment donnez-vous dans ce raisonnement excessivement perruque, comme disent les romantiques? Oh, on voit bien que vous revenez de la Chine. » L'irrévérence des paroles de Modeste fut aggravée par un petit ton méprisant et dédaigneux qu'elle prit à dessein, et dont s'étonnèrent également Madame Latournelle, Madame Mignon et Dumay. Madame Latournelle n'y voyait pas clair, tout en ouvrant les yeux. Butcha, dont l'attention était comparable à celle d'un espion, regarda d'une manière significative M. Mignon en lui voyant le visage coloré par une vive et soudaine indignation. « Encore un peu, mademoiselle, et vous alliez manquer de respect à votre père !» dit en souriant le colonel, éclairé par le regard de Butcha. « Voilà ce que c'est que de gâter ses enfants !» « Mais je suis fille unique, répondit-elle insolemment. « Unique, répéta le notaire en accentuant ce mot. « Monsieur, répondit sèchement Modeste à Latournelle, mon père est très heureux que je me fasse son précepteur. Il m'a donné la vie, je lui donne le savoir, et il me redevra quelque chose. « Il y a manière et surtout l'occasion, dit madame Mignon. « Mais mademoiselle a raison, reprit Canalis en se levant, et se posant à la cheminée dans l'une des plus belles attitudes de sa collection de mines. Dieu, dans sa prévoyance, a donné des aliments et des vêtements à l'homme, et ne lui a pas directement donné l'art. Il a dit à l'homme, « Pour vivre, tu te courberas vers la terre, pour penser, tu t'élèveras vers moi. Nous avons autant besoin de la vie de l'âme que de celle du corps, de la deux utilités. » Ainsi, bien certainement, on ne se chausse pas d'un livre. Un chant d'épopée ne vaut pas, au point de vue utilitaire, une soupe économique du bureau de bienfaisance. La plus belle idée remplacerait difficilement la voile d'un vaisseau. Certes, une marmite autoclave, en se soulevant de 2 pouces sur elle-même, nous procure le calicot à 5 sous le mètre au meilleur marché. Mais cette machine et les perfections d'industrie ne souffle pas la vie à un peuple et ne diront pas à l'avenir qu'il a existé. Tandis que l'art égyptien, l'art mexicain, l'art grec, l'art romain, avec leurs chefs-d'œuvre taxés d'inutiles, ont attesté l'existence de ces peuples dans le vaste espace du temps, là où de grandes nations intermédiaires dénuées d'hommes de génie ont disparu, sans laisser sur le globe leur carte de visite. Toutes les œuvres du génie sont le summum d'une civilisation et présupposent une immense utilité. Certes, une paire de bottes ne l'emporte pas à nos yeux sur une pièce de théâtre, et vous ne préférez pas un moulin à l'église de Saint-Ouen. Eh bien, un peuple est animé du même sentiment que l'homme, et l'homme a pour idée favorite de se survivre à lui-même, moralement, comme il se reproduit physiquement. La survie d'un peuple est l'œuvre de ces hommes de génie. En ce moment, la France prouve énergiquement la vérité de cette thèse. Assurément, elle est primée en industrie, en commerce, en navigation par l'Angleterre. Et néanmoins, elle est, je crois, à la tête du monde par ses artistes, par ses hommes de talent, par le goût de ses produits. Il n'est pas d'artiste ni d'intelligence qui ne vienne demander à Paris ses lettres de maîtrise. Il n'y a d'école de peinture en ce moment qu'en France, et nous régnerons par le livre peut-être plus sûrement, plus longtemps que par le glaive. Dans le système d'Ernest, on supprimait les fleurs de luxe, la beauté de la femme, la musique, la peinture et la poésie. Assurément, la société ne serait pas renversée, mais je demande qui voudrait accepter la vie ainsi. Tout ce qui est utile est affreux et laid. La cuisine est indispensable dans une maison, mais vous vous gardez bien d'y séjourner et vous vivez dans un salon que vous ornez, comme l'est celui-ci, de choses parfaitement superflues. À quoi ces charmantes peintures, ces bois façonnés servent-ils? Il n'y a de beau que ce qui nous semble inutile. Nous avons nommé le XVIe siècle la Renaissance, avec une admirable justesse d'expression. Ce siècle fut l'aurore d'un monde nouveau. Les hommes en parleront encore quand on ne se souviendra plus de quelques siècles antérieurs, dont tout le mérite sera d'avoir existé, comme ces millions d'êtres qui ne comptent pas dans une génération. « Guenilleux soit, ma guenille, mes chers, » répondit assez plaisamment le duc d'Hérouville pendant le silence qui suivit cette prose pompeusement débitée. « L'art qui, selon vous, » dit Butscha en s'attaquant à Canalis, « serait la sphère dans laquelle le génie est appelé à faire ses évolutions, il existe ? N'est-ce pas magnifique mensonge auquel l'homme social a la manie de croire ? Qu'ai-je besoin d'avoir un paysage de Normandie dans ma chambre quand je puis l'aller voir très bien réussi par Dieu ? Nous avons dans nos rêves des poèmes plus beaux que l'Iliade. Pour une somme peu considérable, je puis trouver à Valogne, à 40 ans, comme en Provence, à Arles, des Vénus tout aussi belles que celles de Titien. La Gazette des Tribunaux publie des romans autrement faits que ceux de Walter Scott, qui se dénouent terriblement, avec du vrai sang et non avec de l'encre. Le bonheur et la vertu sont au-dessus de l'art et du génie. Bravo, Butscha ! S'écria Madame Latournelle. Qu'a-t-il dit ? Demanda Canalis à la Brière en cessant de recueillir dans les yeux et dans l'attitude de Modeste les charmants témoignages d'une admiration naïve. Le mépris qu'avait essuyé la Brière et surtout l'irrespectueux discours de la fille au père contristait tellement ce pauvre jeune homme qu'il ne répondit pas à Canalis. Ses yeux, douloureusement attachés sur Modeste, accusaient une méditation profonde. L'argumentation du clerc fut reproduite avec esprit par le duc d'Hérouville, qui finit en disant que les extases de Sainte Thérèse étaient bien supérieures aux créations de Lord Byron. « Oh, monsieur le duc, répondit Modeste, c'est une poésie entièrement personnelle. » Tandis que le génie de Byron ou celui de Molière profite au monde. Mais mets-toi donc d'accord avec monsieur le baron, répondit vivement Charles Mignon. Tu veux maintenant que le génie soit utile, absolument comme le coton, mais tu trouveras peut-être la logique aussi perruque, aussi vieille que ton pauvre bonhomme de père. Butscha, la Brière et madame de la Tournelle échangèrent des regards à demi moqueurs. Qui poussèrent Modeste d'autant plus en avant dans la voie de l'irritation qu'elle resta à court pendant un moment. « Mademoiselle, rassurez-vous, » dit Canalis en lui souriant, « nous ne sommes ni battus ni pris en contradiction. Toute œuvre d'art, qu'il s'agisse de la littérature, de la musique, de la peinture, de la sculpture ou de l'architecture, implique une utilité sociale positive, égale à celle de tous les autres produits commerciaux. L'art est le commerce par excellence, il le sous-entend. Un livre aujourd'hui fait empocher à son auteur quelque chose comme 10 000 francs. Et sa fabrication, on suppose l'imprimerie, la papeterie, la librairie, la fonderie, c'est-à-dire des milliers de bras en action. L'exécution d'une symphonie de Beethoven ou d'un opéra de Rossini demande tout autant de bras, de machines et de fabrication. Le prix d'un monument répond encore plus brutalement à l'objection. Aussi peut-on dire que les œuvres du génie ont une base extrêmement coûteuse et nécessairement profitable à l'ouvrier. Établi sur cette thèse, Canalis parla pendant quelques instants avec un grand luxe d'images et se complaisant dans sa phrase. Mais il lui arriva, comme à beaucoup de grands parleurs, de se trouver dans sa conclusion, au point de départ de la conversation, et du même avis que la Bruyère, sans s'en apercevoir. Je vois avec plaisir, mon cher baron, dit finement le petit duc d'Hérouville, que vous serez un grand ministre constitutionnel. Oh, dit Canalis avec un geste de grand homme, que prouvons-nous dans tous nos discours? L'éternelle vérité de cet axiome, tout est vrai et tout est faux. Il y a pour les vérités morales, comme pour les créatures, des milieux où elles changent l'aspect au point d'être méconnaissables. Mais la société vit de choses jugées, dit le duc d'Hérouville. Quelle légèreté, dit tout bas Madame Latournelle à son mari. C'est un poète, répondit Gobenheim, qui entendit le mot. Canalis, qui se trouvait à 10 lieues au-dessus de ses auditeurs et qui peut-être avait raison dans son dernier mot philosophique, prit pour des symptômes d'ignorance l'espèce de froid peint sur toutes les figures. Mais il se vit compris par Modeste et il resta content, sans deviner combien le monologue est blessant pour des provinciaux dont la principale occupation est de démontrer aux Parisiens l'existence, l'esprit et la sagesse de la province. Y a-t-il longtemps que vous n'avez vu la duchesse de Chaulieu? Demanda le duc à Canalis pour changer de conversation. Je l'ai quittée il y a 6 jours, répondit Canalis. Elle va bien? Reprit le duc. Oui, parfaitement bien. Ayez la bonté de me rappeler à son souvenir quand vous lui écrirez. On l'a dit charmante, reprit Modeste en s'adressant au duc. Ah, monsieur le baron, répondit le grand écuyer, peut en parler plus savamment que moi. Mais plus que charmante, dit Canalis en acceptant la perfidie de monsieur d'Hérouville. Mais je suis partial, mademoiselle, c'est mon amie depuis 10 ans. Je lui dois tout ce que je puis avoir de bon. Elle m'a préservé des dangers du monde. Enfin, monsieur le duc de Chaulieu lui-même m'a fait entrer dans la voie où je suis. Sans la protection de cette famille, le roi, les princesses auraient pu souvent oublier un pauvre poète comme moi. Aussi mon affection sera-t-elle toujours pleine de reconnaissance. Et ceci fut dit avec des larmes dans la voix. Combien nous devons aimer celle qui nous a dicté tant de chants sublimes et qui vous en inspire un si beau sentiment. Dit Modeste attendrie. Ah, peut-on concevoir un poète sans muse? Oh, il serait sans cœur, il ferait des vers secs comme ceux de Voltaire, qui n'a jamais aimé que Voltaire, répondit Canalis. Mais ne m'avez-vous pas fait l'honneur de me dire à Paris, demanda le Breton à Canalis, que vous n'éprouviez aucun des sentiments que vous exprimez? Ah, la botte est droite, mon brave soldat, répondit le poète en souriant. Mais apprenez qu'il est permis d'avoir à la fois beaucoup de cœur et dans la vie intellectuelle et dans la vie réelle. On peut exprimer de beaux sentiments sans les éprouver, et les éprouver sans pouvoir les exprimer. La Bruyère, mon ami que voici, aime en perdre l'esprit, dit-il avec générosité et en regardant Modeste. Moi, qui certes aime autant que lui, je crois, à moi de me faire illusion, que je pourrais donner à mon amour une forme littéraire en harmonie avec sa puissance. Mais je ne réponds pas, mademoiselle, dit-il en se tournant vers Modeste, avec une grâce un petit peu trop recherchée, de ne pas être demain sans esprit. Ainsi le poète triomphait de tout obstacle. Il brûlait en l'honneur de son amour les bâtons qu'on lui jetait entre les jambes, et Modeste restait ébahie de cet esprit parisien qu'elle ne connaissait pas et qui brillantait les déclamations du discoureur. « Quel sauteur !» dit Butscha dans l'oreille du petit Latournelle, après avoir entendu la plus magnifique tirade sur la religion catholique et sur le bonheur d'avoir pour épouse une femme pieuse, servie en réponse à un mot de Madame Mignon. Modeste eut sur les yeux comme un bandeau. Le prestige du débit et l'attention qu'elle prêtait à Canalis, par parti pris, l'empêcha de voir ce que Butscha remarquait soigneusement. La déclamation, le défaut de simplicité, l'emphase substituée au sentiment et toutes les incohérences qui dictèrent au clair ce mot un peu trop cruel. Là où M. Mignon, Dumay, Butscha, Latournelle s'étonnaient de l'inconséquence de Canalis, sans tenir compte de l'inconséquence d'une conversation toujours si capricieuse en France, Modeste admirait la souplesse du poète et se disait, en l'entraînant avec elle dans les chemins tortueux de sa fantaisie, « Il m'aime !» Butscha, comme tous les spectateurs de ce qu'il faut appeler cette représentation, fut frappé du défaut principal des égoïstes que Canalis laisse un peu trop voir, comme tous les gens habitués à pérorer dans les salons. Soit qu'il comprit d'avance ce que l'interlocuteur voulait dire, soit qu'il n'écouta point ou soit qu'il eut la faculté d'écouter tout en pensant à autre chose, Melchior offrait ce visage distrait qui déconcerte la parole autant qu'il blesse la vanité. Ne pas écouter est non seulement un manque de politesse, mais encore une marque de mépris. Or, Canalis pousse un peu loin cette habitude, car souvent il oublie de répondre à un discours qui veut une réponse et passe sans aucune transition polie au sujet dont il se préoccupe. Si d'un homme haut placé cette impertinence s'accepte sans protêt, elle engendre au fond des cœurs un levain de haine et de vengeance. Mais d'un égal, elle va jusqu'à dissoudre l'amitié. Quand, par hasard, Melchior se force à écouter, il tombe dans un autre défaut. Il ne fait que se prêter, il ne se donne pas. Sans être aussi choquant, ce demi-sacrifice indispose tout autant l'écouteur et le laisse mécontent. Rien ne rapporte plus dans le commerce du monde que l'aumône de l'attention. Un bon entendeur, salut, n'est pas seulement un prétexte évangélique, c'est encore une excellente spéculation. Observez-le, on vous passera tout jusqu'à des vices. Canalis prit beaucoup sur lui dans l'intention de plaire à Modeste, mais s'il fut complaisant pour elle, il redevint souvent lui-même avec les autres. Modeste, impitoyable pour les 10 martyrs qu'elle faisait, pria Canalis de lire une de ses pièces de vers. Elle voulait un échantillon du talent de lecture si vanté. Canalis prit le volume que lui tendit Modeste et roucoula, oh, tel est le mot propre, celle de ses poésies qui passe pour être la plus belle, une imitation des amours des anges de Moore, intitulée Vitalis, que Mesdames Latournelle et Dumay, Gobenheim et le caissier accueillirent par quelques bâillements. « Si vous jouez bien au whist, monsieur, » dit Gobenheim en présentant 5 cartes mises en éventail, « n'aurais-je jamais vu d'homme aussi accompli que vous ?» Cette question fit rire, car elle fut la traduction des idées de chacun. Ben, le joue assez pour pouvoir vivre en province le reste de mes jours, répondit Canalis. Voici sans doute plus de littérature et de conversation qu'il en faut à des joueurs de whist, ajouta-t-il avec impertinence en jetant son volume sur la console. Ce détail indique les dangers que court le héros d'un salon à sortir comme Canalis de sa sphère. Il ressemble alors à l'acteur chéri d'un certain public dont le talent se perd en quittant son cadre et en abordant un théâtre supérieur. On mit ensemble le baron et le duc, Gobenheim fut le partenaire de la tournelle. Modeste vint se placer auprès du poète, au grand désespoir du pauvre Ernest, qui suivait sur le visage de la capricieuse jeune fille les progrès de la fascination exercée par Canalis. La Bruyère ignorait le nom de séduction que possédait Melchior et que la nature a souvent refusé aux êtres vrais, assez généralement timides. Ce don exige une hardiesse, une vivacité de moyens qu'on pourrait appeler la voltige de l'esprit. Il comporte même un peu de mimique. Mais n'y a-t-il pas toujours, moralement parlant, un comédien dans un poète? Entre exprimer des sentiments qu'on n'éprouve pas, mais dont on conçoit toutes les variantes, et les feindre quand on en a besoin pour obtenir un succès sur le théâtre de la vie privée, la différence est grande. Néanmoins, si l'hypocrisie nécessaire à l'homme du monde a gangrené le poète, il arrive à transporter les facultés de son talent dans l'expression d'un sentiment nécessaire, comme le grand homme voué à la solitude finit par transborder son cœur dans son esprit. Il travaille pour les millions, se disait douloureusement la Bruyère, et il jouera si bien la passion que Modeste y croira. Et au lieu de se montrer plus aimable et plus spirituel que son rival, la Bruyère imita le duc d'Hérouville. Il resta sombre, inquiet, attentif. Mais là où l'homme de cour étudiait les incartades de la jeune héritière, Ernest fut en proie aux douleurs d'une jalousie noire et concentrée. Il n'avait pas encore obtenu un regard de son idole. Il sortit pour quelques instants avec Butscha. Bon, c'est fini, dit-il, elle est folle de lui. Je suis plus que désagréable, et d'ailleurs elle a raison. Canalis est charmant, il a de l'esprit dans son silence, de la passion dans les yeux, de la poésie dans ses amplifications. Et c'est un honnête homme? Demanda Butscha. Oh oui, répondit la Bruyère. Il est loyal, chevaleresque et capable de perdre, soumis à l'influence d'un modeste, les petits travers que lui a donnés Madame de Chaulieu. Vous êtes un brave garçon, dit le petit bossu. Mais est-il capable d'aimer et l'aimera-t-il? Moi, je ne sais pas, répondit la Bruyère. A-t-elle parlé de moi? Demanda-t-il après un moment de silence. Oui, dit Butscha, qui redit à la Bruyère le mot échappé à Modeste sur les déguisements. Le référendaire alla se jeter sur un banc et s'y cacha la tête dans les mains. Il ne pouvait retenir ses larmes et ne voulait pas les laisser voir à Butscha. Mais le nain était homme à les deviner. Mais qu'avez-vous, monsieur? Demanda Butscha. De la raison, dit la Bruyère en se levant brusquement. Je suis un misérable. Il raconta la tromperie à laquelle l'avait convié Canalis. Mais en faisant observer à Butscha qu'il avait voulu détromper Modeste avant qu'elle ne se fût démasquée, et il se répandit en apostrophe à ses enfantines sur le malheur de sa destinée. Butscha reconnut sympathiquement l'amour dans sa vigoureuse et sapide naïveté, dans ses vraies, dans ses profondes anxiétés. Mais pourquoi, dit-il au référendaire, ne vous développez-vous pas devant Mademoiselle Modeste et laissez-vous votre rivale faire ses exercices? Oh, vous n'avez donc pas senti, lui dit la Bruyère, votre gorge se serrer dès qu'il s'agit de lui parler. Vous ne sentez donc rien dans la racine de vos cheveux, rien à la surface de la peau, quand elle vous regarde, fût-ce que d'un œil distrait. Mais vous avez eu assez de jugement pour être d'une tristesse morne, quand elle a en quelque sorte dit à son digne père, « Vous êtes une ganache ». Monsieur, mais je l'aime trop pour ne pas avoir senti comme la lame d'un poignard entrer dans mon cœur, en entendant ainsi donner un démenti aux perfections que je lui trouve. « Canalis, lui, l'a justifié, » répondit Butscha. Si elle avait plus d'amour-propre que de cœur, elle ne serait pas regrettable, » répliqua la Brière. En ce moment, Modeste, suivi de Canalis, qui venait de perdre, sortit avec son père et Madame Dumay pour respirer l'air d'une nuit étoilée. Pendant que sa fille se promenait avec le poète, Charles Mignon se détacha d'elle pour venir auprès de la Brière. « Votre ami, monsieur, aurait dû se faire avocat, » dit-il en souriant et regardant le jeune homme avec attention. « Oh, ne vous hâtez pas de juger un poète avec la sévérité que vous pourriez avoir pour un homme ordinaire, comme moi, par exemple, monsieur le comte, » répondit la Brière. « Le poète a sa mission. Il est destiné par sa nature à voir la poésie des questions de même qu'il exprime celle de toute chose. Ainsi, là où vous le croyez en opposition avec lui-même, est-il fidèle à sa vocation ? C'est le peintre faisant également bien une madone et une courtisane. Molière a raison dans ses personnages de vieillard et dans ceux de ses jeunes gens. Et Molière avait certes le jugement sain. Ces jeux de l'esprit, corrupteurs chez les hommes secondaires, n'ont aucune influence sur le caractère chez les vrais grands hommes. Charles Mignon serra la main à la Brière en lui disant « Cette facilité pourrait néanmoins servir à se justifier à soi-même des actions diamétralement opposées, et surtout en politique. » « Ah, mademoiselle !» répondait en ce moment Canalis d'une voix câline à une malicieuse observation de Modeste. « Ne croyez pas que la multiplicité des sensations ôte la moindre force aux sentiments. Les poètes, plus que les autres hommes, doivent aimer avec constance et foi. D'abord, ne soyez pas jaloux de ce qu'on appelle la muse. Heureuse la femme d'un homme occupé. » Si vous entendiez les plaintes des femmes qui subissent le poids de l'oisiveté des maris sans fonction, ou à qui la richesse laisse de grands loisirs, vous sauriez que le principal bonheur d'une Parisienne est la liberté et la royauté chez elle. Or, nous autres, nous laissons prendre à une femme le sceptre chez nous, car il nous est impossible de descendre dans la tyrannie exercée par les petits esprits. Nous avons mieux à faire. Oh, si jamais je me mariais, ce qui, je vous le jure, est une catastrophe très éloignée pour moi, je voudrais que ma femme eût la liberté morale que garde une maîtresse et qui peut-être est la source où elle puise toutes ses séductions. Canalis déploya sa verve et ses grâces en parlant amour, mariage, adoration de la femme, en controversant avec Modeste jusqu'à ce que M. Mignon, qui vint les rejoindre, eût trouvé, dans un moment de silence, l'occasion de prendre sa fille par le bras et de l'amener devant Ernest, à qui le digne soldat avait conseillé de tenter une explication. « Mademoiselle, » dit Ernest d'une voix altérée, « il m'est impossible de rester sous le poids de votre mépris. Non, je ne me défends pas, je ne cherche pas à me justifier. Je veux seulement vous faire observer qu'avant de lire votre flatteuse lettre adressée à la personne et non plus au poète, la dernière enfin, Je voulais savoir par un mot écrit du Havre, dissiper l'erreur où vous étiez. Tous les sentiments que j'ai eu le bonheur de vous exprimer sont sincères. Une espérance à lui pour moi, quand à Paris, monsieur votre père s'est dit pauvre. Mais maintenant, si tout est perdu, si je n'ai plus que des regrets éternels, pourquoi resterai-je ici où tout est supplice pour moi ? Laissez-moi donc emporter un sourire de vous. Il sera gravé dans mon cœur. Monsieur, répondit Modeste, qui parut froide et distraite, Je ne suis pas la maîtresse ici. Mais certes, je serais au désespoir d'y retenir ceux qui n'y trouvent ni plaisir ni bonheur. » Elle laissa le référendaire en prenant le bras de Madame Dumay pour entrer. Quelques instants après, tous les personnages de cette scène domestique, de nouveau réunis au salon, furent assez surpris de voir Modeste assise auprès du duc d'Hérouville et coquetant avec lui qu'aurait pu le faire la plus rusée parisienne. Elle s'intéressait à son jeu, lui donnait les conseils qu'il demandait et trouva l'occasion de lui dire des choses flatteuses en élevant le hasard de la noblesse sur la même ligne que les hasards du talent et de la beauté. Canalis savait ou croyait savoir la raison de ce changement. Il avait voulu piquer Modeste en traitant le mariage de catastrophe et en s'en montrant éloigné. Mais, comme tous ceux qui jouent avec le feu, ce fut lui qui se brûla. La fierté de Modeste, son dédain, alarmèrent le poète. Il revint à elle en donnant le spectacle d'une jalousie d'autant plus visible qu'elle était jouée. Modeste, implacable comme les anges, savoura le plaisir que lui causait l'exercice de son pouvoir, et naturellement elle en abusa. Le duc d'Hérouville n'avait jamais connu pareille fête. Une femme lui souriait. À 11 heures du soir, heure indue au Châtelet, les trois prétendus sortirent, le duc en trouvant Modeste charmante, Canalis en la trouvant excessivement coquette, et la Bruyère navrée de sa dureté.